L'émission pour déranger, une émission féministe le deuxième et quatrième mercredi du mois.
De 18h30 à 20h sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour cette nouvelle émission de Dégenré, ce soir avec Amélia et Inga au micro et Nicolène à la technique. En fait, tout d'abord, on voudrait juste rapidement revenir sur le fait qu'il y a deux semaines, on n'a pas pu faire notre émission parce que du matériel de la radio avait brûlé suite à des jets de cocktails Molotov qui, a priori, visaient pas la radio, mais des étages au-dessus.
Où se trouve une salle de la mairie et les locaux de Un Toit pour Tous.
Ouais, je crois. Et donc, en fait, enfin, voilà, c'est... cela me touche parce que Radio Kaléidoscope est une petite radio associative qui fonctionne avec très peu de moyens. Mais en fait, on voulait exprimer aussi le fait de, enfin, de, on n'avait pas envie de juger par quels moyens en fait des personnes expriment leur colère légitime et que même on peut considérer que la destruction de biens peut être un mode d'action dans la lutte contre des systèmes d'oppression et d'exploitation qui peuvent être clairement violents.
Voilà, donc c'est un peu tout ça aussi pour en venir au sujet de notre émission, où du coup on voulait un peu...
On voulait un peu parler, revenir sur cette actualité-là aussi, et en gros aussi avec un point de vue féministe. Pour ça, on voudrait s'intéresser dans un premier temps, en fait, à comment aussi des femmes sont instrumentalisées par les médias et par les politiques afin de pouvoir stigmatiser des parties de la population ou
utiliser dans un rôle de pacification sociale, en fait.
Oui. Et pour la suite après, enfin, ce qui nous renvoie aussi sur en fait justement cette question des modes d'action et on entend beaucoup parler de la violence, de condamner cette violence-là. Et nous, on voulait tout d'abord, poser un peu la question de quelle violence on parle et s'intéresser à ça, mais aussi réfléchir comment dans des mouvements sociaux mais aussi dans des mouvements de femmes en fait la violence a été un mode d'action choisi et qui a été pertinent dans des luttes précises.
Oui, et qui peut être considéré plutôt comme de la légitime légitime défense contre des violences étatiques ou sociales.
Et en même temps, voilà, ça pose aussi la question de quel rapport peuvent avoir des femmes à la violence. Et bien sûr, il y a aussi des rapports genrés en fait, qui jouent là-dedans. Alors ça sera aussi une partie de notre émission. Et quand on dit violence, la violence souvent c'est un moyen d'exprimer de la colère. Et on voulait vraiment creuser un peu, c'est quoi la place de la colère ou l'importance de la colère dans des luttes sociales.
Voilà. Et du coup, pour commencer sur ce sujet, on voulait un peu reparler en fait d'un texte qui a circulé, qui a été publié, qui s'appelle « Non aux violences, l'appel des femmes ». Parce que du coup, quand Enfin, donc, c'est contre les violences dans les banlieues, je crois le titre en entier. Et qui nous a pas mal choqués, en fait, nous, quand on l'a lu. Et un des premiers points, en fait, je pense, qui nous a fait bizarre, c'est que ce communiqué, il est représenté un peu comme étant représentant toutes les femmes, comme étant censé représenter, je sais pas moi, un universel féminin, comme si toutes les femmes avaient le même point de vue.
Ouais, déjà, c'est déjà dans le titre l'appel des femmes, comme si ça pouvait regrouper toutes les femmes. Mais aussi, dans le premier paragraphe, il y a nous sommes la moitié de la population, la moitié du ciel, la moitié du monde. Et alors que peut-être pas du tout toutes les femmes signeraient cet appel. Enfin, en tout cas, il n'est pas représentatif pour toutes les femmes. Un deuxième point en fait de critique. En fait, c'est que ce texte, il présente les femmes avant tout, en fait, comme dans leur rôle de mère. Par exemple, il dit « Nous en appelons d'abord à nos enfants, à ceux que nous aimons. Nous exigeons qu'ils rentrent à la maison et qu'ils se calment. Nous l'exigeons parce que nous les avons mis au monde, parce que nous les avons portés et nourris. » Et donc, c'est vraiment, à un moment donné, mettre en avant uniquement ce rôle-là en fait des femmes de la mère qui porte son enfant et qui après s'inquiète pour cet enfant ou lui ordonne des choses, mais alors que les femmes peuvent avoir plein d'autres rapports en fait aux personnes qui ont participé aux émeutes par exemple qui sont visées là par la répression aussi.
Et par exemple ça au-delà de ce texte en général enfin, que ce soit dans les différents médias, télé, radio, journaux, il n'y avait pas des tonnes de paroles de femmes. Et moi, principalement, ce que j'ai vu dans la majorité, c'était toujours des femmes qu'on faisait parler en tant que mère de leur fils. Et c'est toujours, à un moment, ramener les femmes, tout d'abord, du coup, dans ce rôle, quoi.
Et ce qui ne veut pas dire qu'on voudrait nier, en fait, de ce que ça peut représenter pour des femmes qui... ont des fils peut-être inculpés à l'heure actuelle ou que ça peut représenter des énormes inquiétudes et enfin qui sont pas sans raison quoi, mais le problème c'est toujours ce truc de montrer uniquement ce rôle là possible pour les femmes en fait.
Ouais, du coup dans le texte un des trucs en fait qui je pense c'est vraiment cette espèce de d'appel au calme, mais il y avait aussi un truc qui nous a fait bizarre, c'était un passage où ça met ils nous font honte, donc où ça parle de leur fils, ils nous font honte en acceptant de ressembler à l'insulte qu'on leur fait, non ils ne sont pas des racailles. Et moi je trouve ce truc là ça fait vraiment le jeu de toutes les personnes, que ça soit de droite, mais aussi, je sais pas, toutes les personnes bien pensantes de gauche qui vont soutenir, par exemple, je sais pas moi, qui vont dire que mai 68, c'était trop bien quand ils parlent d'étudiants bourgeois qui, par exemple, ont brûlé, lancé des pavés. Mais alors, quand il s'agit de jeunes de banlieue, tout de suite, c'est dans des trucs hyper péjoratifs de... ils sont pas politisés, ils brûlent n'importe quoi, enfin, etc. Et dans un truc super... super méprisant et à un moment je trouve que voilà elles en mettant ça dans leur communiqué au final je trouve que ça fait le jeu de ces propos là quoi.
Ouais, et il y a aussi le côté où en fait parce que pour moi cette phrase là ils se comportent en fait ils acceptent de ressembler à l'insulte, c'est ce truc et aussi d'autres personnes disent ah ils font le jeu du Front National. Mm-hmm. Moi ça fait vraiment ce truc oulala t'es d'origine immigrée alors ferme bien ta gueule parce que sinon tu pourrais être un émeutier et ça justifierait le racisme, une sorte de tournure à mon avis super illogique mais qui arrange bien en fait de faire une sorte d'autocensure comme ça où les gens ils pourraient plus exprimer des critiques ou plus exploser des colères quoi parce que ils pourraient trop ressembler à ce qu'on leur reproche, enfin c'est trop facile quoi je trouve comme argumentation. Et peut-être un dernier point, c'est aussi il y a marqué aussi comme tout citoyen, ils ont des droits mais aussi des devoirs. Moi ça me fait un peu rigoler de leur parler de leurs devoirs de citoyens quand leurs droits de citoyens leur sont pas du tout accordés, quoi. Il y a clairement des inégalités sociales,
Ouais, c'est clairement des jeunes, de toute façon des populations considérées comme des citoyens de seconde zone. Du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est, enfin, ce truc-là, c'est décalé, quoi. Ça veut dire quoi, ces trucs de devoir, quoi, du coup, quand t'es dans une société qui, de toute façon, te laisse aucune place et qui est juste dans un truc de violence, néocoloniale quotidienne, quoi. Je trouve ça en fait un peu bizarre, quoi, de parler de devoir.
En tout cas, ce texte-là et en général ce type de point de vue, les médias ils se jettent dessus, quoi. Ils aiment très bien. Même Libé avait publié tout un dossier sur la révolte au féminin, mais où au final une grande partie des articles parlent aussi justement, quoi. Enfin, citent uniquement des mères en fait qui voudraient que leur fils vient bien sagement chez eux, enfin, et que comme ça personne ne risque rien. Enfin, en tout cas, il y a principalement des propos comme ça qui sont mis en avant. Et c'est pas du tout inhabituel en fait que les médias, et aussi finalement derrière les médias, les politiques, quoi, se servent comme ça en fait de femmes en fait dans par rapport à différents thèmes. Enfin, moi je me rappelle, genre par exemple par rapport à la situation des femmes en Afghanistan, c'était tout d'un coup tout le monde s'y intéressait, alors que quand les talibans ils ont pris le pouvoir à Kaboul, il y a pas tout de suite eu comme ça un intérêt porté à ça. C'était au moment où les États-Unis avaient un intérêt politique et économique à récupérer le contrôle de l'Afghanistan. Alors c'est toujours facile à ce moment-là de parler de ça, et finalement maintenant plus grand monde parle des femmes en Afghanistan, alors que leur situation a en partie pas tant changé que ça. Et voilà, c'est vraiment ce truc, quand ça arrange, on en parle. Et des exemples comme ça, on peut en citer pas mal.
Ouais, je veux dire, c'est la même chose, par exemple, sur la loi sur les insignes religieux à l'école, qui donc visait avant tout le port du voile à l'école. C'est tout d'un coup, il y a des politiques qui vont se mettre à soi-disant s'intéresser aux droits des femmes. Alors là, les femmes, elles sont trop des victimes, tout ça, à protéger, qui seraient manipulées, etc. Alors après, 5 minutes après, ils vont dire qu'elles sont quand même hyper dangereuses et que du coup, faut les chasser de l'école parce qu'elles pourraient faire du prosélytisme. Mais c'est... Enfin, cette espèce de truc où tout est récupérable et à un moment servir de soi-disant d'intérêt pour les droits des femmes pour justifier une guerre, des lois racistes, etc. Quoi, c'est comme sur comment ça a été traité médiatiquement les viols collectifs, donc enfin les. Que les,
ouais, appeler les quand, tournantes. Quand ça arrive en banlieue, ça s'appelle tournante. Alors partout ailleurs, ça s'appelle uniquement viol collectif. Ouais, c'est clair, c'est aussi il y a eu un énorme boom médiatique là-dessus à partir de 2001, je crois, mais alors que quand on regarde les, enfin, il y a des études là-dessus, c'est pas un phénomène qui a vraiment augmenté en nombre et qui est pas non plus nouveau, mais qui est clair, enfin, qui est pas non plus un phénomène lié à des populations d'origine immigrée, mais donc comme ça a été présenté, c'était uniquement ça, et c'était s'intéresser aux filles victimes de ça dans les banlieues, ou même plus largement, du coup, c'était vraiment un truc sur le sexisme dans les banlieues et tout ça, alors que le sexisme, il y en a partout, et ça veut pas dire que ces phénomènes-là, les viols collectifs ou d'autres formes de sexisme et de violence sexiste, existent dans les banlieues et que c'est hyper grave, mais sauf que ça existe aussi ailleurs et c'est aussi hyper grave, et c'est pas propre à des zones géographiques de l'autre côté du périphérique.
Ouais, c'est ça, parce que ces mêmes médias et politiques, ils iront jamais dénoncer le viol comme faisant partie enfin à part entière du système patriarcal et comme un moyen aussi de pression sur la sexualité des femmes, quoi. Et ben peut-être avant justement, voulez-vous donc vous lire par rapport en réponse à ce texte un communiqué qui s'appelle l'appel des unes aux autres, mais peut-être avant on va écouter un morceau de musique.
Ouais, on va écouter un morceau qui s'appelle La Bimba de Women. Et alors on a choisi un peu pour cette émission là de mettre notre choix musical un peu sur l'expression de la colère je sais pas comment dire, enfin rendre hommage à la colère, non c'est un peu bon, mais voilà, enfin un truc comme ça un peu.
Francesca, la primera frase. Lei è sempre accanto, Francesca non ha mai chiesto di più, sta sbagliando, son certo sei tu, Francesca non ha mai chiesto.
Mero metro te prende mi spavind. E bimba bimba vuoi giocare con me? Perché io so tu talento, io so brindisina, mezzo mica di Milano pure veneziana. Allora bimba bimba prego gioca con me. E mi sto piccola bimba, tanto piccola bimba. E tu sei un pirla bimba, se non giochi con me mi troverò qualcun'altra, stanne ben sicura. Non ci sei solo tu, Maro che frega. Allora bimba bimba aspetta un po', ma dov'è? E se n'è andata via la bimba così stronza com'è? Ma guarda un po', là c'è un bimbo che sta per arrivare. Forse forse quasi quasi riesco a farlo giocare. E bimba bimba vuoi giocare con me? Ma aspetta un po', questo è un bimbo, cazzo vuole da me? Ma guarda un po', questi bimbi sono tutti uguali, ugualmente banali ed anche superficiali. E come faccio a giocare io con un bimbo banale? Razziale, gioco solo coi bimbi fascisti, nordisti, poi spariscono e poi chi l'ha visti? E allora bimba, che pizza, che noia, che palle, allora bimba, che palle, che pizza, che noia, allora bimba. Ba 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 bimba. E allora bimba, bimba, vuoi giocare con noi? Ancora no, e perché no? Allora che cazzo vuoi? E allora bimbi, sapete io che cosa vi dico? Il buco ce l'avete, ficcatevi il dito. Allora bimba, bimba, guarda un po' qui chi c'è. E c'è la bimba col basso, sai con lei è uno spasso. Dall'altra parte le corde sottili, e la bimba che le suona è una gran brava persona. E qua avanti c'è la bimba che batte il tamburo, si emoziona sempre dopo disegna sul muro. Allora bimba, bla 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 bimba, 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 bimba.
Appel des unes aux autres. Nous, femmes solidaires de ceux qu'on assigne racaille, nous soutenons les exigences des indigènes de la République et du MIB. Nous, femmes, mères, sœurs, amies, épouses, camarades, indigènes, compagnes, voisines, filles, amantes, inconnues, cousines, noires, blanches, rousses, croyantes ou pas, sommes totalement solidaires de ceux que l'on nomme racaille. Nous refusons d'être mises dans quelque marge que ce soit concernant la révolte sociale qu'a provoquée la jeunesse humiliée, discriminée des quartiers populaires. Nous étions et sommes à leur côté. Comment peut-on encore nous exclure de nos propres luttes ? Nous ne sommes et ne serons pas complices de cette société qui nous refuse notre droit à l'existence, qui nous refuse notre place en son sein, qui nous assigne à l'invisibilité à l'ombre et au silence, à travers mille mots dégradants pour tous et mille comportements injurieux et destructeurs de nos dignités. Nous sommes et resterons du côté de la vie, du côté des jeunes qui ne demandent qu'à vivre d'égalité et de justice.
Nous, amis, voisines, femmes, mères, indigènes, amantes, sœurs, épouses, camarades, compagnes, cousines, filles, inconnues, noires, blanches, rousses, croyantes ou pas, qui luttons depuis toujours pour obtenir le droit tout simple qu'est vivre dans un logement décent, pour obtenir une égalité de traitement pour toutes, pour obtenir le droit à l'école pour toutes, nous refusons les discriminations que les jeunes subissent au quotidien avec l'impossibilité d'obtenir le droit de vivre. Discriminations qui traduisent douloureusement l'idée que se fait de ses propres enfants, un pays comme la France, pays des droits par excellence.
Nous, camarades, amantes, femmes, sœurs, compagnes, indigènes, amies, rousses, noires, blanches, croyantes ou pas, mères, voisines, épouses, cousines de ceux que l'on traite en racailles, nous sommes solidaires du refus de cette jeunesse de voir son existence criminalisée en permanence. Quand cette société va-t-elle admettre que sa jeunesse insultée sans arrêt, décidée de se battre pour ses droits, mais pas seulement ses droits particulièrement contestés partout et tout le temps ? Cette jeunesse se bat parce que ses droits s'inscrivent dans l'ensemble des droits et que leur remise en cause permanente se traduira forcément par une atteinte à tous les droits et aux droits de tous et toutes. Les droits de ceux que l'on dit racailles sont remis en cause par des inégalités et des discriminations qui les maintiennent en situation de précarité extrême. Une société solidaire implique la lutte contre toutes les discriminations, particulièrement contre le racisme, la xénophobie et celle qui repose sur le genre.
Quand nous, sœurs indigènes, amantes, blanches, rousses, noires, croyantes ou pas, compagnes, voisines, épouses, femmes, cousines, camarades, amies, mères ou inconnues de ceux que l'on juge racailles, sommes solidaires des jeunes qui sont stigmatisés par le simple fait d'exister, vous devez entendre notre refus de voir notre société continuer à faire de ces jeunes hommes, qui soient nos cousins, nos camarades, nos amants, nos fils, nos époux, nos amis, nos compagnons, nos frères ou des inconnus, les boucs émissaires des politiques sécuritaires et répressives. Tous nous devons entendre qu'il est dangereux et illusoire de répondre aux besoins de sécurité par la répression à l'encontre de notre propre jeunesse et de notre propre avenir, car les jeunes des quartiers populaires ne sont ni la cause ni la solution de l'insécurité. Allez voir plutôt du côté des malfrats en costume d'hommes respectables qui volent et pillent notre société, sans en passer par la case garde à vue, trop souvent connue et sans raison par les jeunes des quartiers populaires.
Nous, mères, blanches, noires, rousses, croyantes ou pas, femmes, amantes, indigènes, épouses, voisines, sœurs, compagnes, camarades, cousines, amies ou inconnues, refusons d'avaliser le discours de supplétive de l'ordre colonial, visant à soutenir les mesures prises à l'encontre de la jeunesse des quartiers populaires. Tant que les revendications de cette jeunesse ne seront pas entendues, tant qu'il n'y aura pas avec cette jeunesse une véritable table de négociation, comme pour tous ceux qui sont en lutte pour obtenir des droits dans cette société, nous sommes et serons solidaires de la révolte sociale de cette jeunesse. Nous, femmes solidaires de ceux qu'on l'on assigne racailles, nous soutenons les exigences des indigènes de la République et du MIB.
Nous, mères, filles, sœurs, amantes, compagnes, voisines, blanches, noires, rousses, croyantes ou pas, épouses, camarades, amies, cousines, inconnues, indigènes, nous appelons toutes celles et ceux qui refusent d'être les complices, les supplétifs de l'ordre colonial, à une forte mobilisation autour de cette jeunesse qui, depuis près de 30 ans, et régulièrement, se passe en relais de flammes qui la brûlent aussi, et par lequel elle ne fait que revendiquer égalité et justice pour tous, sans jamais être entendue. Toutes les luttes, qu'elles soient isolées ou collectives, pour la justice et l'égalité, imposent à tous et toutes d'entendre et de soutenir cette jeunesse. Alors voilà, c'était l'appel des unes aux autres pour donner une vision différente de l'appel des femmes. Et en fait, il y a plusieurs références aux indigènes de la République et au MIB, qui donc est le mouvement de l'immigration et des banlieues. Et en fait, on voulait juste assez rapidement donner quelques éléments de leurs revendications Alors, les indigènes de la République, en fait, ont lancé un appel pour des assises de l'anticolonialisme postcolonial. Et dans leur, cet appel, ils l'ont lancé en février de cette année. Et dans leur appel, ils dénoncent surtout, en gros, le fait que le colonialisme est toujours hyper présent en France, que la France a été un État colonial et tout, mais qu'elle l'est toujours, notamment par par le traitement, enfin sur le territoire français, par le traitement des populations ici issues de la colonisation qui se prolonge en fait. Et donc par des discriminations racistes à l'embauche, à l'accès au logement, aussi une répression énorme qui s'abat sur eux. L'espace il est divisé par, il y a les centres-villes et les banlieues où il n'y a pas les mêmes accès en termes de transport, ces choses-là, et aussi en termes de discours, en fait, quelle image la France elle renvoie. Il y a pas longtemps, une loi a été votée pour rendre obligatoire de parler à l'école des bienfaits de la colonisation, alors que l'histoire en fait des peuples colonisés, c'est une histoire des Français, parce que beaucoup de Français sont issus de ces populations là et c'est toujours pas à l'ordre du jour dans les salles de lycée ou de collège. Enfin, plein de choses comme ça, en fait, qui font vraiment où la France fait vraiment preuve de racisme et d'un esprit colonialiste. Le MIB, il dénonce aussi, ce qui est appelé les bavures policières, alors que bavure, à la base, ça veut dire une tache, quoi. Enfin, quelque chose qui n'était pas prévu, quand l'encre, elle coule de ton stylo, quoi. Mais, ça serait un phénomène d'exception non voulu. Sauf que, il s'agit pas du tout d'exception, en fait, des personnes qui ont été tuées ou blessées par la police en France ces dernières années, depuis les dernières 30 ans,
ou soi-disant suicidées dans leurs cellules de garde à vue ou dans des prisons.
Ouais, enfin, c'est loin d'être des exceptions, et ces crimes policiers en fait restent toujours impunis, les contrôles aux faciès, je sais pas en termes de chiffres, mais je pense pour une partie des jeunes des quartiers populaires, c'est 2 contrôles par jour, c'est le minimum du quotidien, et c'est pas en moment d'exception, c'est toute l'année, quoi, voilà.
Ouais, puis je sais pas, par rapport aux violences policières, enfin aussi ce qui est juste peut-être, enfin l'étincelle qu'a déclenché aussi les révoltes, c'est quand même la mort de 2 jeunes qui ont été se réfugier dans un local EDF alors qu'ils étaient poursuivis par la police, et enfin clairement il y a des gens qui font comme s'ils comprenaient pas, etc., ou comme c'était un fait divers isolé, alors que clairement je pense, enfin le fait je pense pour certains jeunes, et d'autant plus si on n'est pas blanc et qu'on correspond, enfin que justement on vient de banlieue, le fait d'être poursuivi par les flics, c'est un danger de mort. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la mort, ça fait partie, le fait de se faire tabasser, etc., ça fait partie des risques encourus. Et ça, tous les jeunes, ils le savent très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils en sont venus à là, quoi. Ça fait partie intégrante du système, quoi, comme toutes les violences physiques ou psychologiques, par exemple, vont faire partie de la garde à vue, et ça, c'est, enfin, d'essayer, par exemple, d'obtenir des aveux de la part de personnes pour la police, etc., mais ça, c'est, ça fait partie du système, quoi. Ça n'a rien d'un cas isolé.
Ouais, et justement, ça nous amène à à, en fait, des questionnements qu'on voulait soulever aussi dans cette émission, c'est en fait de se questionner autour de cette notion de violence et de, d'abord parler de quelle violence on parle, parce que alors voilà, quand ces dernières semaines, violence en fait c'était les violences urbaines, les émeutes, tout ça, alors que et ben moi dans un premier temps j'ai d'abord envie de parler de la violence quotidienne que des gens peuvent se prendre dans la gueule un peu, enfin vraiment tous les jours. Et que aussi, en fait, enfin, je sais pas, quand on parle de violence comme ça, moi, c'est pas uniquement, j'ai envie de, enfin, de parler pas uniquement de violence physique, parce que, enfin, voilà, comme on a déjà dit, des bavures et des tabassages et tout ça, enfin, ou ce qui est appelé bavure, enfin, ça, ça existe. Et donc il y a des personnes qui subissent des violences physiques concrètes, mais aussi le fait par exemple que ces violences-là ne soient pas punies, enfin que les policiers ne soient pas enfin punis pour ces actes, et ben ça fait que ça rend ces violences-là en fait enfin je sais pas comment dire, faisant partie de la structure de la société en fait, chaque jeune, je sais pas, pas assez blanc, et ben peut avoir en tête que il peut être victime de ce type de violence et que quelque part et ben c'est normal dans l'État français parce que ce n'est pas puni par la loi quand une personne de ce groupe social là et ben se fait tabasser. Alors du coup ça, enfin à un moment donné c'est pas uniquement des violences physiques concrètes mais aussi des violences enfin je sais pas qui s'applique comme ça en fait à des groupes de population entières qui sont stigmatisés par ça. Et puis aussi je pense le fait par exemple comme on disait déjà des contrôles aux faciès où fusent les insultes racistes enfin des choses comme ça, et ben c'est aussi des violences même si c'est pas toujours directement physique, mais c'est aussi des violences qui marquent les personnes.
Ouais. En fait, pour en revenir aussi pour ce qui me faisait penser aux mêmes revendications des indigènes de la République ou du MIB ou du coup de cet appel, c'est par exemple aussi la libération immédiate, enfin l'arrêt des poursuites contre les personnes qui ont été inculpées pendant les émeutes. Et moi, ce que je trouve quand même assez fou, par exemple, c'est qu'il y a quand même plein de gens dont, enfin par exemple plus ou moins de gauche, dont on pourrait s'attendre que logiquement ils seraient censés soutenir ce genre de revendications. Et là, c'est pas du tout soutenu parce que bon, quand même, ils critiquent un peu, mais ce qui va revenir, c'est oui, mais quand même, ils brûlent des voitures, c'est violent. Ou t'as même, je sais pas, des gens qui vont dire oui, mais pourquoi ne vont-ils pas brûler au centre-ville, quoi? Et à un moment, je sais pas, je trouve ça complètement décalé de la réalité, où c'est quoi pour les personnes leur possibilité aussi, sans prendre des tonnes de risques, de sortir justement de leur quartier pour aller faire ça au centre-ville. Enfin, c'est vraiment un truc complètement décalé. Et je trouve que par exemple, dans la défense de trucs de destruction, eh ben, il y a des personnes qui vont se faire soutenir. Je sais pas, moi, par exemple, José Bové va en prison parce qu'il a détruit un champ d'OGM. Là, il y a plein de gens qui vont s'insurger, le défendre, etc. Enfin, c'est très bien, quoi. Mais par contre, tous les jeunes, là, qui se retrouvent, parce que là, en ce moment, des comparutions immédiates et des procès, il y en a plein, quoi. Et tous les jeunes qui se prennent 4 ans de prison de ferme, etc., toutes ces personnes, elles sont pas là pour les soutenir, quoi. Et là, tout d'un coup, la destruction, c'est violent, quoi. Enfin, c'est vraiment un peu deux poids, deux mesures.
Ouais, et alors moi, je voudrais revenir sur cette histoire de c'est quoi la violence, mais plutôt aussi dans l'autre sens. Enfin, c'est questionner un peu, en fait, qu'est-ce que c'est le racisme? D'ailleurs, de racisme, on n'entend pas beaucoup parler, en fait. On parle d'ethnicisation, on trouve un peu des euphémismes comme ça et tout, alors que je vois pas souvent dans les médias juste le mot racisme en clair, quoi. Alors que en fait c'est enfin c'est une idéologie très présente en France, ou enfin pas uniquement en France, mais là voilà, il se trouve qu'on parle de l'État français depuis un bon bout de temps. Et donc enfin il y a par exemple Colette Guillaumin en fait qui a écrit un livre qui s'appelle l'idéologie raciste, où elle étudie en fait cette idéologie là. Et un des premiers points sur lesquels elle insiste, c'est en fait le fait que en fait il y a une sorte de présupposé que selon lequel le racisme serait un comportement individuel. Il y a des personnes qui sont racistes, il y a des extrémistes comme ça qui sont racistes, et ça c'est pas bien. Et ça clairement il y a un truc, enfin, je pense, à part, l'extrême droite, la plupart des gens, ils vont dire, ouais, le racisme, c'est pas bien. Mais sauf qu'après, de réfléchir, c'est quoi le racisme, c'est tout autre chose, en fait, parce que il y a peut-être des moments où des situations où l'expression du racisme est plus extrême, mais en fait il s'agit bien d'une idéologie et donc d'un système de pensée en entier. Et et par exemple, enfin je sais pas, des affirmations qui sont pas forcément perçues en fait comme une agression, comme par exemple je sais pas tous les noirs courent vite ou sont très sportifs, et ben c'est pas une agression en soi comme ça, mais ça participe bien à l'idéologie raciste, parce que en fait il y a une distinction qui est faite entre un groupe de la population qui est blanc, un groupe de la population qui est noir, et parce que les gens ils sont noirs, ils auraient des caractéristiques spécifiques. Et et donc, enfin, c'est ce truc-là, en fait, de reconnaître à un moment donné que le racisme, c'est pas uniquement des expressions ponctuelles, graves comme ça, mais c'est toute une idéologie. Et si on veut combattre le racisme, il faut bien s'attaquer à toute cette idéologie-là et la reconnaître dans aussi nos propres représentations, en fait, du monde, quoi.
Ouais, bah c'est, enfin, pour faire du coup un parallèle avec le sexisme, c'est de la même façon, si on dit par exemple toutes les femmes sont douces et pacifiques, c'est, et ben ça peut des gens diront mais non, c'est absolument pas sexiste, c'est un compliment. Mais à un moment en fait c'est ce truc de dire comme un caractère naturel, etc., qui découlerait du fait d'avoir été assignée femme à la naissance, quoi, enfin d'être identifiée en tant que telle. Et comme si ça allait de soi, c'était naturel, quoi. Enfin, c'est tout ce genre de truc de discrimination intégrée, quoi.
Ouais, aussi il y a, même pour se revenir sur cette idée des violences structurelles, il y a aussi un parallèle qu'on peut faire avec par exemple le viol, qui est qui représente une menace et qui peut créer une peur chez toutes les femmes, mais sans que forcément elles aient toutes vécu subi directement un viol, même si je pense il y a beaucoup de viols ou de violences sexuelles, mais c'est juste ce truc, comment est vu le viol, comment il est pas reconnu en fait comme une agression, et donc comment en fait c'est quelque chose qui juste peut arriver aux femmes, et ça crée en fait une sorte d'enfermement en fait dans la peur et dans la violence qui est créée par ce phénomène pour les femmes et pour toutes les femmes. Et je pense, les systèmes de domination fonctionnent en partie sur les mêmes mécanismes
en fait le parallèle que je verrais, c'est de la même façon du coup que quand on est petite en tant que femme, on va avoir cette peur du viol qui est présente dans notre esprit tout le temps. Et ben je pense des gamins des banlieues, et ben par rapport à la police par exemple, ça va faire la même chose. Je sais pas, quoi. Je sais que par exemple j'ai bossé avec enfin avec des enfants qui étaient en maternelle et qui faisaient partie d'une cité considérée comme chaude machin, mais à partir de 3 ans, ils savaient que la police était leur ennemi. Enfin, juste ils l'avaient bien vu par rapport à comment les flics ils se comportaient dans leur quartier avec leurs proches, avec leurs frères, leurs sœurs, etc. Et que ça, cette espèce de peur, elle était présente dès leur plus jeune âge, quoi. Enfin, c'est là où je peux voir un parallèle. Et c'est pas un truc. Par contre, je sais pas, moi j'ai bossé dans des quartiers avec des enfants dans des quartiers plus bourges ou classe moyenne, enfin ou de centre-ville, etc. Bah là, il y avait des tonnes de petits garçons qui disaient que par exemple, quand ils seraient grands, pourquoi pas ils seraient policiers, quoi. Enfin, je veux dire, là, il y avait pas la même violence, enfin la même peur, quoi.
Ouais, qui est appris en fait, qui est construit par des expériences concrètes et par aussi une mémoire.
Qui est construite avec une raison, quoi. Et justement par rapport aux violences policières, on voulait passer un morceau du Tigre qui s'appelle Bang Bang et en fait qui est à propos de la mort de l'assassinat par la police d'un jeune noir américain dans les années 90 et qui s'est quand même fait tirer 43 balles dans le dos. Et où du coup ça a suscité aussi des révoltes etc après parce que enfin ce que je veux dire c'est quand on entend après les flics parler soi-disant de légitime défense quand on assassine quelqu'un de 43 balles dans le dos je pense qu'ils peuvent quand même difficilement parler de légitime défense.
In New York, the shooting of another unarmed black man raises further questions about NYPD tactics. On Thursday, an undercover police officer shot and killed Patrick Dorsman. Of unarmed African immigrant Amadou Diallo.
One, two, three, four.
Vous êtes sur Dégenré, l'émission pour déranger, et on se questionnait sur la violence par rapport aussi un peu à la situation actuelle en France. Avant, on a plus parlé un peu de la violence policière, de la violence que créent les structures étatiques et les idéologies comme le racisme ou ça. On voudrait là plus parler en fait de la violence aussi comme une sorte de légitime défense ou un moyen de lutte. En fait, dans l'histoire, il y a eu plein d'exemples en fait de mouvements où la lutte ne passait pas uniquement par des moyens pacifiques, mais aussi par la violence, et qui même aujourd'hui certains types de, enfin des modes d'action comme ça dans certains mouvements, enfin c'est aussi vu d'une manière positive en fait.
Et voilà, là du coup on voulait l'aborder un peu plus par rapport aux femmes qu'emploient donc des moyens d'action politique dits violents, donc que ça soit par exemple la destruction de biens matériels ou des kidnappings, des assassinats, etc. Et que c'est un truc qu'on peut retrouver par exemple dans tous les pays, enfin de manière vraiment assez partagée, c'est que les femmes qui emploient ce genre de moyens d'action sont toujours jugées deux fois. Bah déjà tout d'abord pour un jugement en général sur le fait de recourir à des tactiques qui sont considérées comme violentes, mais aussi avant tout, et des fois d'ailleurs dans les procès, etc., on peut voir ça dépasse ça, parce qu'elles sont des femmes et que des femmes seraient d'autant moins en fait censées employer ce mode d'action. Et donc elles sont jugées hyper sur un truc moral en fait, comme tout d'un coup n'appartenant plus à la catégorie femme, et on retrouve vraiment, enfin qu'on voit des jugements de procès de différentes femmes donc considérées comme terroristes par exemple, enfin ou des femmes qui ont pu assassiner des personnalités politiques, des patrons, ce truc qui revient de mauvaise moralité ou je sais pas, dans les journaux, etc., je sais pas, ils vont étudier des trucs genre oui mais elle couche à droite à gauche, mais est-ce qu'elle serait pas lesbienne, mais c'est une fille dépravée, ou alors la décrire de manière masculine comme n'ayant pas un comportement féminin, enfin il y a vraiment un jugement avant tout là-dessus. Ou alors l'autre face qui peut être faite, bah par exemple, qui est pas mal et qui peut être employée des fois d'ailleurs un peu par la défense, enfin moi je pense par exemple au procès de Florence Rey où ça a pas mal été ça aussi, c'est de la voir comme manipulée. Ou même, à la limite, du coup, les gens qui vont la défendre vont la voir quand même comme, en général, manipulée par son petit copain, ou en tout cas, les chefs obligatoirement masculins de son organisation politique. Et que, du coup, la défense, ça va être qu'elle n'est pas vraiment coupable, là, parce que en tant que femme, elle peut quand même pas avoir avoir décidé ça pour des raisons politiques, etc. Mais elle doit être, manipulée, pas complètement responsable, en fait.
Et alors, pour donner un exemple pour comment en fait des femmes, des mouvements de femmes ont pu utiliser la violence pour comme mode d'action dans leur lutte, et ben moi je voudrais parler d'un mouvement qui, enfin je crois de telle manière, est pas si connu que ça en France. C'est en fait le mouvement des suffragettes, et c'est surtout en fait en Angleterre où elles ont assez vite compris que ben par des moyens non violents elles iraient pas bien loin. Et donc ce mouvement a été fondé en 1903, et il y a eu assez rapidement des comportements relativement violents, dans le sens où elles n'hésitent pas à cracher sur les policiers, des comportements pas vraiment vus comme féminins. Et à partir de quelques années plus tard, en fait, genre en 1913 par exemple, elles font sauter une bombe devant la maison du chancelier de l'Échiquier. Elles détruisent la liaison téléphonique entre Glasgow et Londres. En 1914, elles brisent les vitres du ministère de l'Intérieur, et elles mettent le feu au Lawn Tennis Club à Londres. Et donc il y a une forte répression, des arrestations et tout ça, et aussi vraiment cette vision aussi mais c'est qui ces femmes dépravées qui utilisent la violence et tout ça. Et ben n'empêche que c'est aussi grâce à ces luttes là que les femmes ont le droit de vote aujourd'hui, et elles ont réussi à avoir le droit de vote en 1918 pour les femmes de plus de 30 ans, et pour toutes les femmes en 1928. Ça c'était un exemple en fait d'un mouvement qui a utilisé la violence et qui a en partie aussi été entendu pour ça, quoi.
Voilà, et sinon, bah, ce qu'on voulait dire, c'est que on ne veut pas donner non plus l'impression que, par exemple, on va cracher sur des organisations de femmes qui décident à un moyen de lutter de manière dite pacifique, non violente, etc. Parce que je pense qu'il y a des mouvements de femmes qui sont super intéressants, qui font ça, je sais pas, comme les maires de la place de Mai, par exemple, enfin, et qui prennent aussi des risques, quoi. C'est pas parce qu'on lutte de manière pacifique, enfin, dite pacifique, que on n'encourt pas des,
ouais,
des
ça
risques.
C'est, ça, c'est sûr.
Et, c'est juste ce qu'on remet en cause, c'est que ça soit des modes d'action qui soient considérés directement comme typiquement féminins, etc. Bien que, enfin, je veux dire, c'est logique que les femmes dans cette société, eh ben, elles vont d'autant plus hésiter à employer des moyens violents, sachant que, comme ce que j'expliquais avant, eh ben, elles seront jugées deux fois, quoi, en tant que militantes, mais avant tout en tant que femmes qui utilisent ces moyens-là. Et, du coup, ben toujours en lien avec ça, on va écouter un morceau de Bams et qui s'appelle Moi ma violence. Et ben je vous en dis pas plus, mais juste ouais, écoutez les paroles.
Forme d'intransigeance latente, incommodante pour nos détracteurs qui persistent aux détentes. Partout en ton cœur de nous faire prendre la descendante. Ouais, je vais corps avec toutes les pensées pleines de sens. Et j'ai un goût prononcé pour les idées sensées. Amener mon peuple hanté, contrer où nous populaces opprimées seront enfin un récompensé danser. Moment d'attente, je fais ma part du taf avec ou sans staff. L'essentiel c'est de mettre des paves de chasser les innombrables imposteurs à tes rapports. Uniquement pour la tasse, la gloire d'autographe. Assez de haine gaspillée, mal orienté, diriger des régions là qu'ils savourent al dente. Notre vengeance pour laquelle je prône mille et crédits dignes d'une mes descendances. Pas mille et qu'est, qu'est, moi ma violence, ouais. Pas de brutalité, mais de violence, différente des atrocités en quantité. Je dois ton CV, je n'ai pas rêvé, parachevé parfaitement pour nous ôter toute liberté. Je combats colonialisme, l'indigeste, impérialisme, et face au favoritisme, là, je fais des dégâts. Quand je fusille sur le mic, le capitalisme, ta génétique du modernisme dans sa polka. Par le rap et ses lyrics, j'ai plus de devoirs, de pouvoir qu'un syndicat t'es dans la mouise. Vite, vite, appelle ton avocat du noir, arabica, je vire rouge, magenta. Gosse, homme, femme, la révolution est le seul moyen de défense pour ceux qui rament. Alors je fuck la non-violence, je la mâche et je la crache. Je shoot comme un chewing-gum qui traîne sur le macadam. Moi ma violence, ouais, oh. Moi ma violence, un accouchement c'est violent. Le monde que l'on circoncit, violent. Comme un soin par chimiothérapie, y'a de la violence. De par nature dans la vie, elle réveille. Nous sort de l'état léthargique, elle éveille. Future maman noire, mes fils et filles ne seront pas des lâches. Des êtres assujettis des poires, ils tendent. D'autres jouent à tendre et pendent. Une fois intégrés et finissent pendus par trop d'espoir. Démarre ton char, loulou. De savoir brille que le rechargement c'est là le seul anti-brouillard. Les civilisations basées sur le mépris doivent disparaître. Les traîtres pour paraître, les maîtres envoient les pêtres. Mais ma violence libératrice n'est pas celle qu'il y a, que je vois sous ma fenêtre. Moi ma violence libératrice n'est pas celle que je vois sous ma fenêtre. Moi ma violence, ouais, yo. Moi ma violence, moi ma violence. Ouais, yo. Moi ma violence, un accouchement c'est violent. Le monde que l'on circoncit, violent. Comme un soin de chimiothérapie, y'a de la violence. Je pars la tue dans la vie, y'a de la veille. Je
Donc vous êtes toujours sur Dégenré, donc sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Et donc par rapport à ce qu'on parlait un peu avant, donc de, en gros, de la violence légitime, qui est plutôt une réponse à la violence sociale, quoi, que peuvent subir des minorités discriminées. On voulait parler un peu de, bah, elle vient d'où cette violence, elle vient d'une colère, quoi, et parler un peu de la colère qui en général, par exemple, peut être présentée quand même comme un sentiment négatif, et qu'on avait un peu envie de repositiver, parce que on pense clairement que, enfin, être en colère, et ben c'est une réaction légitime quand justement on subit, enfin que justement on subit plus des choses, mais que on se révolte contre, et ben le sentiment qui naît, c'est de la colère, et que faut arrêter de le voir juste comme un truc négatif, en fait.
Ouais, et aussi en fait c'est un peu ce truc que la colère peut être enfin libératrice, parce que la colère c'est enfin être en colère c'est un signe d'être enfin t'es vivant, quoi, tu réagis à quelque chose, tu réagis à une agression et tu t'es pas dans un comportement de, je sais pas, d'apathie ou de résignation. Et aussi en fait je crois un principe qui me semble vachement important, c'est ce truc de que c'est pas les personnes, les agresseurs enfin ou les dominants qui peuvent juger en fait les moyens avec par lesquels en fait des personnes dominées, opprimées expriment leur colère ou se défendent. Et moi par exemple, ça me fait penser à le fait de souvent en fait quand des femmes réagissent à des agressions sexistes, et ben tout de suite c'est ah mais t'y allais un peu fort, ou enfin des trucs comme ça, tout de suite c'est jugé, même enfin presque dans un truc oui t'as raison, enfin genre c'était pas bien l'agression mais quand même et tout. Et c'est un peu ce truc où je crois, moi j'ai envie de dire et ben si moi je me sens agressée, et ben je me défends comme je veux et comme je peux, et si vous trouvez cette agression pas bien, et ben vous avez qu'à me soutenir et pas juger en fait mes manières d'exprimer ma colère.
Et donc bah, par rapport à ce sujet du racisme et de la colère, on voulait vous lire un texte d'Audrey Lorde. Audrey Lorde qui se présente en tant que poète, écrivaine, lesbienne, mère noire, américaine, enfin par différents adjectifs, et qui a écrit vraiment des textes bien intéressants sur le sujet. Alors c'est un texte un peu long et voilà, mais qu'on trouvait chouette, donc peut-être faut se concentrer un peu pour l'écouter, mais on espère que, je sais pas, il vous apportera des trucs comme nous, il a pu nous en apporter. Donc c'est de l'usage de la colère, la réponse des femmes au racisme. Et c'est le discours d'ouverture prononcé en juin 1981 lors de la conférence de l'Association nationale des études femmes à Storr dans le Connecticut. Le racisme, croyance en la supériorité intrinsèque d'une race sur toutes les autres, et ainsi ont son droit à dominer, manifeste et implicite. Les femmes répondent au racisme. Ma réponse au racisme est la colère. J'ai vécu avec cette colère en l'ignorant, en m'en nourrissant, en apprenant à m'en servir avant qu'elle ne détruise mes idéaux, et ce, la plus grande partie de ma vie. Autrefois, je faisais tout cela en silence, effrayée par le poids d'un tel fardeau. Ma peur de la colère ne m'a rien appris. Votre peur de cette colère ne vous apprendra rien, à vous non plus. La réponse des femmes au racisme signifie qu'elles répondent à la colère. Colère de l'exclusion, des privilèges immuables, des préjugés raciaux, du silence, des mauvais traitements, des stéréotypes, des réactions défensives, des injures, de la trahison et de la récupération. Ma colère est une réponse aux attitudes racistes, aux actes et aux présomptions engendrées par de telles attitudes. Si vos relations avec d'autres femmes reflètent ces attitudes, alors ma colère et les peurs qu'elles font naître en vous sont des projecteurs qui peuvent être utilisés pour grandir, de la même manière que j'ai appris à exprimer ma colère pour ma propre croissance. Mais comme chirurgie réparatrice, pas pour culpabiliser. La culpabilité et les réactions défensives sont les briques d'un mur contre lequel nous butons toutes. elles ne conviennent à aucun de nos futurs. Comme je ne veux pas que ceci devienne une discussion théorique, je vais illustrer ces points en donnant quelques exemples d'échanges entre femmes. Par manque de temps, je n'en donnerai que quelques-uns, mais sachez que ces exemples étaient beaucoup plus nombreux. Par exemple, je m'exprime, sans mâcher mes mots, lors d'une conférence universitaire, et une femme blanche me dit « Racontez-moi ce que vous ressentez, mais ne le dites pas trop durement, sinon je ne peux pas vous écouter. » Mais est-ce ma façon de m'exprimer qui l'empêche de m'entendre ou la menace d'un message qui l'appelle à changer sa vie? Le programme des études femmes d'une université du Sud invite une femme noire à intervenir après une conférence d'une semaine sur le thème des femmes noires et des femmes blanches. Je leur demande « Qu'est-ce que cette semaine vous a apporté ?» La femme blanche, qui s'est fait le plus entendre, déclare « Je pense que ça m'a beaucoup apporté. J'ai le sentiment que les femmes noires me comprennent vraiment mieux maintenant. Elles ont une meilleure idée d'où je viens. » Comme si la comprendre, elle, constituait le cœur du problème raciste. Depuis 15 ans, le mouvement des femmes prétend débattre des préoccupations et des perspectives de toutes les femmes. Et j'entends d'une rencontre à l'autre. Comment pouvons-nous débattre au sujet du racisme? Aucune femme de couleur ne vient. Ou encore, l'autre visage d'une telle affirmation. Nous n'avons personne dans notre département possédant les qualités requises pour enseigner leurs œuvres. En d'autres termes, le racisme est un problème de femmes noires, un problème de femmes de couleur, et nous seuls pouvons en débattre. Après ma lecture d'un extrait de mon travail intitulé « Poems for Women in Rage », une femme blanche me demande « Est-ce que vous allez écrire sur comment nous pouvons nous y prendre directement avec notre colère ? Je crois que c'est vraiment important. » Je lui demande « Comment utilisez-vous votre rage ?» Et ensuite, je dois me détourner de son regard vide avant qu'elle ne m'accuse de participer à sa propre destruction. Je ne suis pas là pour ressentir sa colère à sa place. Des femmes blanches commencent à interroger leur relation avec les femmes noires. Cependant, je les entends souvent se cantonner au cas des petits-enfants de couleur traversant les chemins de leur enfance, de la nourrice bien-aimée, de la camarade de classe occasionnelle du secondaire, ces tendres souvenirs sur ce qui était autrefois mystérieux, étrange ou dépourvu de sens. Vous évitez les souvenirs des préjugés de l'enfance, préjugés formés au son du fou rire déclenché par les noms de Rastus et Alfalfa. Vous évitez le souvenir criant du message lancé par le mouchoir de votre mère, étalé sur le banc du parc, juste après que je m'y suis assise. Vous évitez les images indélébiles et déshumanisantes des personnages de Amos and Andy. C'est une bande dessinée américaine raciste, un peu dans le style du personnage Yabon Banania imaginé en France. Comme les histoires drôles de votre père avant le coucher. En 1967, je poussais ma fille de 2 ans dans un chariot à travers un supermarché de Eastchester. Et une petite fille blanche, à cheval sur le chariot de sa mère, s'écria tout excitée en nous croisant. « Oh, regarde maman, le bébé d'une nourrice !» Et votre mère vous fait taire, mais sans vous reprendre. Et ainsi, 15 ans plus tard, lors d'une conférence sur le racisme, vous trouvez encore cette histoire amusante. Mais votre rire est plein de terreur et de malaise. Une universitaire blanche se réjouit de la publication d'une collection créée par des femmes de couleur non noire. Ça me permettra de me confronter au racisme sans avoir à me coltiner l'intransigeance des femmes noires, me lance-t-elle. Lors d'une rencontre culturelle internationale de femmes, une poète américaine blanche bien connue interrompt la lecture d'œuvres de femmes de couleur afin de lire son propre poème et filer ensuite à toute vitesse à une table ronde importante. Tout cela pour dire que si les femmes universitaires veulent vraiment engager un débat sur le racisme, elles devront prendre en considération les besoins et les conditions de vie des autres femmes. Quand une universitaire dit « je n'ai pas les moyens de me le payer », cela peut signifier qu'elle choisit comment dépenser son argent. Mais quand une femme qui dépend de l'aide sociale dit « je n'ai pas les moyens de me le payer », cela veut dire qu'elle survit avec une somme d'argent qui était à peine suffisante pour vivre en 1972 et que souvent elle n'a pas assez à manger. L'Association nationale des études femmes, ici même en 81, a tenu une conférence dans laquelle elle s'était engagée à combattre le racisme. Pourtant, elle a refusé d'exonérer des droits d'inscription les femmes pauvres et les femmes de couleur souhaitant présenter et animer des ateliers. Ce qui a empêché de nombreuses femmes de couleur, par exemple Wilmette Brown de l'association Black Women for Wages for Housework de participer à cette conférence. S'agit-il encore d'un nouvel exemple du monde universitaire débattant de la vie en circuit fermé ? Aux femmes blanches ici présentes, pour qui ces comportements sont familiers, mais plus que tout, à toutes mes sœurs de couleur qui vivent et survivent à des milliers de confrontations de cette sorte, à mes sœurs de couleur qui, comme moi, tremblent de colère sous le joug de l'exploitation, ou qui parfois jugent l'expression de notre colère inutile et destructrice, les deux accusations les plus fréquentes, je veux parler de la colère, de ma colère, et de ce que m'ont appris mes voyages à travers ces empires. Tout peut être utilisé, excepté ce qui est gaspillage. Tu auras besoin de te souvenir de cela qu'on t'accusera de destruction. Chaque femme possède un arsenal de colère bien rempli et potentiellement utile contre ces oppressions, personnelles et institutionnelles, qui ont elles-mêmes déclenché cette colère. Dirigée avec précision, la colère peut devenir une puissante source d'énergie au service du progrès et du changement. Et quand je parle de changement, je ne parle pas d'un simple changement de point de vue, ni d'un soulagement temporaire, ni de la capacité à sourire ou à se sentir bien. Je parle d'un remaniement fondamental et radical de ces implicites qui sous-tendent nos vies. J'ai assisté à des situations où des femmes blanches entendent une remarque raciste, en éprouvent du ressentiment, se remplissent de fureur, mais restent silencieuses parce qu'elles ont peur. Cette colère étouffée demeure en elle comme un engin explosif désamorcé qui, trop souvent, va être ensuite violemment jeté à la tête de la première femme de couleur qui parle de racisme. Mais extérioriser la colère, la transformer en action au service de notre vision et de notre futur, est un acte de clarification qui nous libère et nous donne de la force. Car c'est par ce processus douloureux de mise en pratique que nous identifions qui sont les alliés avec lesquels nous avons de sérieuses divergences et qui sont nos véritables ennemis. La colère est chargée d'informations et d'énergie. Quand je parle de femme de couleur, je ne veux pas uniquement dire femme noire. La femme de couleur qui n'est pas noire et qui m'accuse de la rendre invisible, parce que je présuppose que ses combats contre le racisme sont identiques aux miens, cette femme a quelque chose à me dire. Et je ferais bien de l'écouter pour éviter que nous nous épuisions en nous affrontant sur nos vérités respectives. Si je participe, consciemment ou non, à l'oppression de ma sœur et qu'elle m'interpelle là-dessus, répondre à sa colère par la mienne ne fait qu'étouffer la substance de notre échange. C'est du gaspillage d'énergie. Et oui, il est très difficile de rester tranquille en écoutant la voix d'une autre femme dire précisément une angoisse que je ne partage pas ou à laquelle j'ai moi-même contribué. En ce lieu, nous parlons loin des évidences les plus criantes de notre condition de femme assiégée. Que cela ne nous cache pas l'importance et la complexité des forces qui se dressent contre nous et tout ce qu'il y a de plus humain dans notre environnement. Nous ne sommes pas ici en train d'analyser le racisme dans un vide social et politique. Nous agissons dans les rouages d'un système dont le racisme et le sexisme sont des piliers fondamentaux, établis et nécessaires au profit. La réponse des femmes au racisme représente un sujet tellement dangereux que lorsque les médias locaux tentent de discréditer cette conférence, ils choisissent comme stratagème de diversion d'attirer l'attention sur l'hébergement des lesbiennes pendant la conférence. Comme si le courant de Hartford n'osait pas mentionner le sujet choisi ici pour nos discussions, le racisme. De peur qu'il ne devienne trop évident que nous, femmes, essayons d'analyser et de changer tous les aspects répressifs de nos vies. Les médias dominants ne veulent pas que des femmes, en particulier des femmes blanches, réagissent contre le racisme. Ils veulent qu'on accepte le racisme comme une donnée immuable dans la trame de notre existence, comme le coucher du soleil ou le rhume des foins. Ainsi, nous travaillons dans un contexte d'opposition et de menace, dont la cause n'est certainement pas due à ces colères qui existent entre nous, mais plutôt à cette haine violente braquée contre toutes les femmes, les gens de couleur, les lesbiennes et les gays, les pauvres. Cette haine contre toutes celles et ceux qui cherchent à analyser comment résister aux oppressions et qui s'acheminent ainsi vers une alliance et une action effective.
This is a folk tune, and it's called Little Liza Jane. We'll get some rhythm started here and see what happens. I got a beau, you ain't got none, little Liza Jane. I got a beau, you ain't got none, little Liza Jane. I got a beau, you ain't got none, little Liza Jane. I got a beau, you ain't got none, little Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane.
Liza Jane, Liza Jane,
come my love and live with me.
Liza Jane,
I will take good care of thee, Liza Jane.
Liza Jane, Liza Jane,
come my love and live with me.
Liza Jane,
I will take good care of thee, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh,
Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane.
Ham bone, where you been?
Liza Jane,
down by the creek from making gin.
Liza Jane,
I know a man that's fainted feet tall.
Liza Jane,
thinks he's looking and has a ball.
Liza Jane,
saw him just the other day.
Liza Jane,
he had a horse and a bale of hay.
Liza
the Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, the Liza Jane. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, the Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane.
Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane, Liza Jane.
He took me to this great big town. Lot of people standing around. They were listening to a great big band. The bestest music in the land. I tell you once and tell you twice. Enjoy yourself and live a life. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, the Liza Jane. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, Jane, the Liza. The Liza Jane, the Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, Liza Jane. Oh, Liza, little.
Toutes les femmes qui veulent réellement un débat sur le racisme doivent reconnaître et utiliser la colère. Parce qu'elle est vitale, cette discussion doit être franche et créative. Nous ne pouvons à aucun prix laisser notre peur de la colère nous détourner ou nous séduire et nous amener à accepter moins que la difficile tâche de rechercher l'honnêteté. Nous devons prendre très au sérieux le choix de ce sujet et les colères qu'il contient, car soyons certaines que nos adversaires sont très sérieux dans leur haine envers nous et envers ce que nous essayons d'accomplir ici. Et pendant que nous scrutons le visage souvent douloureux de la colère de l'autre, je vous supplie de vous souvenir que ce n'est pas notre colère qui me pousse à vous conseiller de fermer vos portes à clé la nuit et de ne pas vous promener seul dans les rues de Hartford. C'est la haine qui rôde dans ces rues qui appelle à nous détruire si nous travaillons réellement pour un changement au lieu de nous laisser aller à des discussions universitaires. Cette haine et notre colère sont très différentes. La haine, c'est la fureur de celles et de ceux qui ne partagent pas nos objectifs, et elle a pour but la mort et la destruction. La colère, elle, est une douleur provoquée par des décalages entre personnes égales. Son but est le changement. Mais notre temps est de plus en plus compté. On nous a appris à considérer toute différence, autre que le sexe, comme un motif de destruction. Et c'est pourquoi l'idée que les femmes noires et les femmes blanches peuvent faire face à leurs colères respectives sans se désavouer, sans rester pétrifiées, sans être muettes ni se sentir coupables, est en soi une idée hérétique et constructive. Elle implique une rencontre entre égales, sur une base commune, pour examiner la différence et pour bousculer ces idées héritées de l'histoire. Car ce sont ces préjugés qui nous séparent. Et nous devons nous demander à qui profite tout cela. Les femmes de couleur en Amérique ont grandi au sein d'une symphonie de colère, d'être muselées, rejetées, de savoir que lorsque nous survivons, c'est en dépit d'un monde qui considère que nos vies valent moins que celles d'un chien, un monde qui hait notre existence même quand elle n'est pas à son service. Et je dis symphonie plutôt que cacophonie, car nous avons dû apprendre à orchestrer ces fureurs afin qu'elles ne nous déchirent pas. Nous avons dû apprendre à cheminer à travers nos colères et à les utiliser comme énergie et force dans nos vies quotidiennes. Celles d'entre nous qui n'ont pas appris cette difficile leçon n'ont pas survécu. Et une partie de ma colère est toujours une offrande à mes sœurs qui sont tombées. La colère est une réaction appropriée face au comportement raciste, comme l'est la fureur lorsque les actes issus de tels comportements ne changent pas. Aux femmes ici présentes qui craignent plus la colère des femmes de couleur que leur propre comportement raciste intériorisé, je demande, est-ce que la colère des femmes de couleur est plus menaçante que cette haine des femmes qui imprègne tous les aspects de nos vies ? Ce n'est pas la colère des autres femmes qui nous détruira, mais notre refus de nous arrêter, d'écouter ses rythmes, d'apprendre en son sein, de dépasser les représentations pour en toucher la substance et d'exploiter cette colère comme une source importante de puissance. Je ne peux pas cacher ma colère pour vous éviter la culpabilité, ni blesser les sentiments, ni répondre à la colère. Parce qu'agir ainsi, c'est insulter et banaliser tous nos efforts. La culpabilité n'est pas une réponse à la colère, c'est une réponse à nos propres actions ou à une absence d'action. Si la culpabilité mène au changement, alors elle peut être utile puisqu'il ne s'agit plus de culpabilité mais du début de la connaissance. Cependant, trop souvent, la culpabilité est l'autre nom de la faiblesse, l'autre nom d'une réaction défensive qui détruit tout comme qui détruit toute communication. Elle devient stratagème, abritant l'ignorance et perpétuant les choses telles qu'elles sont, rempart ultime contre tout changement. La plupart des femmes n'ont pas développé d'outils pour se confronter de façon constructive à la colère. Dans le passé, les groupes de conscience féministes massivement blancs parlaient de l'extériorisation de la colère, habituellement contre le monde des hommes. Ces groupes étaient composés de femmes blanches partageant les termes de leurs oppressions. Il y avait généralement peu de tentatives pour énoncer clairement les différences sérieuses existant entre femmes, comme les différences de race, de couleur, d'âge, de classe sociale et d'identité sexuelle. À cette époque, on ne ressentait pas le besoin d'analyser les contradictions en soi, femme en tant qu'oppresseur. On travaillait à extérioriser la colère, mais très peu à exprimer la colère des unes envers les autres. Aucun moyen n'a été développé qui permette aux femmes d'appréhender cette colère des unes envers les autres, hormis l'éviter, la détourner ou la fuir en se cachant sous un manteau de culpabilité. Je n'ai aucun usage créatif de la culpabilité, la vôtre ou la mienne. La culpabilité est uniquement un moyen supplémentaire pour éviter d'agir en connaissance de cause, pour gagner du temps face à l'urgente nécessité de faire des choix clairs, face à l'approche de la tempête qui peut nourrir la terre comme faire plier les arbres. Et si je vous parle avec colère, au moins vous ai-je adressé la parole. Je ne vous braque pas un revolver sur la tempe pour vous abattre en pleine rue. Je ne regarde pas le corps ensanglanté de votre sœur en demandant « Qu'a-t-elle fait pour mériter ça ?» Telle fut la réaction de deux femmes blanches à l'écoute du récit de Mary Church Terrell, qui leur racontait le lynchage d'une femme noire enceinte dont le bébé a ensuite été arraché de son corps. Cela se passait en 1921, et Alice Paul venait publiquement de refuser de soutenir l'application du 19e amendement à l'ensemble des femmes. c'est le droit de vote dans la Constitution des États-Unis. Refusant ainsi d'inclure les femmes de couleur, et ce bien que nous ayons lutté pour l'application de cet amendement. Les colères entre femmes ne nous tueront pas si nous savons les formuler avec précision, si nous écoutons le contenu de ce qui est dit avec au moins autant d'intensité que nous mettons à nous protéger de la façon dont cela est dit. Quand nous nous détournons de la colère, nous nous détournons de perceptions nouvelles, affirmant ainsi que nous acceptons les schémas préétablis, des schémas dont la familiarité nous est mortelle et sécurisante. J'ai essayé d'apprendre en quoi ma colère m'est utile, autant que ses limites. Pour les femmes éduquées à avoir peur, trop souvent la colère est menaçante, destructrice. Dans la construction masculine de la force brutale, on nous a appris que nos vies dépendaient du bon vouloir du pouvoir patriarcal. Nous devions à tout prix éviter la colère des autres, car il n'y avait rien à en tirer hormis de la souffrance. On nous aurait cataloguées comme mauvaises filles, voire simples d'esprit, ne faisant pas ce qui était attendu de nous. Et si nous acceptons l'idée de notre impuissance, alors évidemment, n'importe quelle colère peut nous détruire. Mais la force des femmes réside dans le fait de reconnaître que les différences qui existent entre nous sont constructives, de faire face à ces idées reçues dont nous avons hérité, malgré nous, et que nous devons changer maintenant. Les colères des femmes peuvent métamorphoser les différences en puissance. Parce que la colère entre personnes égales donne naissance au changement, pas à la destruction. Et le malaise ou le sentiment de perte qu'elle provoque souvent n'est pas une fatalité, mais un signe de croissance. Ma réponse au racisme est la colère. Cette colère a ouvert des abîmes dans ma vie uniquement lorsqu'elle était tue, inutile à quiconque. Elle m'a aussi servi dans des salles de classe sans lumière ni instruction, là où le travail et l'histoire des femmes noires étaient moins que vapeur. Elle a été ma flamme dans l'étendue glaciale des regards ahuris lancés par des femmes blanches, des femmes qui voyaient uniquement dans mon expérience et dans l'expérience de mon peuple de nouvelles raisons d'avoir peur ou de culpabiliser. Et n'utilisez pas ma colère comme excuse pour rester aveugle ni pour vous dédouaner de la responsabilité de vos propres actions. Quand les femmes de couleur osent extérioriser la colère qui en sert trop de nos contacts avec les femmes blanches, on nous accuse souvent en disant que, je cite, « nous créons une atmosphère de désespoir ». Nous empêchons les femmes blanches de surmonter leur culpabilité, ou encore, nous faisons obstacle à la communication confiante et à l'action. Toutes ces citations sont directement tirées de lettres qui m'ont été adressées par des membres de cette organisation ces deux dernières années. Une femme m'a écrit « Parce que vous êtes noire et lesbienne, vous semblez parler avec l'autorité morale de la souffrance. Oui, je suis noire et lesbienne, et ce que vous entendez dans ma voix, c'est de la rage, pas de la souffrance. » De la colère, pas de l'autorité morale. Il y a une différence. Tourner le dos à la colère des femmes noires, avec l'excuse ou le prétexte d'être intimidée, ne donne aucune force à quiconque. C'est uniquement une autre façon de préserver les œillères raciales, le pouvoir des privilèges établis, intouchables, intacts. La culpabilité n'est qu'une autre façon de nous traiter en objet. On demande toujours au peuple opprimé de tendre un peu plus la joue, de construire un pont entre aveuglement et humanité. On attend des femmes noires qu'elles mettent leur colère au service exclusif du salut des autres ou de leur information. Mais cette époque est révolue. Ma colère m'a été douloureuse, mais elle m'a aussi permis de survivre. Et avant de m'en défaire, je vais m'assurer que sur le chemin de la clarté, il existe au moins quelque chose d'aussi puissant pour la remplacer. Quelle femme ici est si amoureuse de sa propre oppression au point qu'elle n'est plus capable de voir l'empreinte de son propre talent sur le visage d'une autre femme? Quelle femme ici utilise sa propre oppression comme ticket d'entrée au rang des justes, loin des vents glaciales de l'examen de conscience? Je suis une lesbienne de couleur dont les enfants mangent régulièrement à leur faim parce que je travaille à l'université. Si leurs ventres pleins me font oublier mes points communs avec une femme de couleur dont les enfants n'ont rien à manger parce qu'elle ne peut pas trouver de travail, ou qui n'a pas d'enfants parce que les avortements clandestins et la stérilisation ont bousillé ses organes génitaux, si j'oublie la lesbienne qui choisit de ne pas avoir d'enfants, la femme qui reste dans le placard parce que sa communauté homophobe est un seul point d'ancrage, la femme qui choisit le silence plutôt qu'une autre forme de mort, la femme qui est terrifiée que ma colère ne déclenche la sienne, si je manque de reconnaître toutes ces femmes comme d'autres facettes de moi-même, non seulement je participe à l'oppression de chacune d'entre elles, mais je participe aussi à la mienne. Et la colère qui se dresse entre nous doit être utilisée pour nous éclairer et nous renforcer mutuellement, et non pour fuir sous couvert de culpabilité ou pour creuser d'autres fossés. Je ne suis pas libre tant qu'une femme reste prisonnière, même si ses chaînes sont très différentes des miennes, et aussi longtemps qu'une personne de couleur restera enchaînée, je ne serai pas libre, ni aucune d'entre vous.
Voilà, donc notre émission touche à sa fin parce que notre lecture a pris un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, on va vous laisser avec un morceau d'Azé qui s'appelle « Sous le ciel de Paris ».
C'est un morceau de groupe No Easy.
Oui.
Un groupe parisien qui... Enfin voilà.
Voilà, qui est un peu un appel à la révolte.
Bonsoir.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Ah, elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris, une chose est bien sûre. Si les émeutiers s'amusent, j'envisage un futur.